le point central sur les jeunes, pas vus comme personnes à éduquer, mais qu'il faut valoriser dans leur contribution. Pas seulement pour les éduquer, les faire entrer dans la vie, les préparer à la vie. Ils ont déjà une vie et leur attitude, leurs pensées, leurs idées peuvent vraiment être un apport très, très positif à la société. Avec leur, heureusement, manque de préjugés, leur ouverture vers l'avenir, leurs idéaux, les jeunes sont vraiment dans la position juste pour les valoriser, pas seulement pour, parce que c'est la mode, être ouvert aux jeunes. L'exemple plus concret que je connais, c'est l'exemple du père Choufani, un père chrétien israélien, qui a fait à Jérusalem une école où il y a un tiers de chrétiens, un tiers de musulmans, un tiers de juifs. C'est à partir de l'éducation des jeunes où on peut frapper les préjugés et être ouvert d'une façon permanente et réciproque. Sinon, on fait seulement des déclarations officielles, mais qui ne changent pas.
La dimension sociale et politique des religions est aussi dominante. Hein. Vous y revenez à la fin de votre raisonnement, elle a une très grande importance. Vous reprenez le cardinal Danielou, vous dites que les religions ont une fonction commune et irremplaçable dans le cadre technique des cultures contemporaines, dans le but d'un bien commun terrestre, pour qu'il soit complet et équilibré. En gros, c'est incontournable.
Oui, oui, l'idée géniale du cardinal Danielou, ce n'est pas seulement qu'il y a une contribution positive de la religion, non, qui de plus en plus est reconnue, mais l'idée que je partage, qui à la fin est rebondie par Habermas aussi et Benoît, le pape émérite, c'est le fait que les hommes politiques doivent s'intéresser seulement du bien commun terrestre des citoyens. Mais le bien commun terrestre des citoyens comprend la dimension spirituelle. La foi ne peut pas être vécue seulement d'une façon privée. C'est une vie communautaire. Donc, les hommes d'État, les hommes politiques, à mon avis, c'est un devoir de s'occuper et permettre que la dimension spirituelle ait une dimension sociale publique.
Avec cette dimension, il y avait l'éducation, les jeunes et la communication au sein de la communauté. Voilà. Vous avez choisi ces quatre thèmes. Dans quel but précis d'une société que vous voyez comment à l'avenir?
Le pape François, quand il s'est rencontré avec Ban Ki-moon, qui est le secrétaire de New York, pas de l'UNESCO, mais ils ont trouvé une formule que je trouve très intéressante. La culture du rapprochement, pas le rapprochement de culture. La culture ne se choque pas. Il y a le choc des ignorances, pas le choc de culture ou de civilisation. Et chacune devient une richesse pour l'autre. Donc, la culture de l'approchement signifie que c'est pas qui est contre le dialogue, personne. Qui est contre la paix, personne. Il faut avoir un accueil mutuel et permanent. Sinon, on dialogue sur le dialogue.
Le président de l'Équateur, Rafael Correa, lui, a mis l'accent sur la lutte contre la pauvreté, est le résultat, selon lui, de systèmes injustes qui favorisent l'exclusion. Vous, les quatre lignes que vous abordez, c'est justement parce que des problèmes comme la pauvreté seraient résolus grâce à cette ligne qui est sur le beaucoup plus long terme, comme vous dites.
L'approche, en général, des hommes politiques, c'est la politique sociale et sociologique. L'approche de l'Église et aussi de l'UNESCO, c'est sur l'éducation. En effet, dans le prologue de l'UNESCO, c'est écrit « Vu que les guerres naissent dans les esprits des hommes, c'est dans les esprits des hommes qu'il faut bâtir la paix. » Donc, c'est moins un problème de doctrine sociale et plus un problème d'éducation catholique chrétienne. Et nous, à l'UNESCO, on est très intéressés à la doctrine sociale de l'Église. Mais pas seulement. Quand on parle de la culture et de l'éducation, ce n'est pas un problème de doctrine sociale, c'est un problème d'éducation, d'introduire les jeunes générations dans la vie concrète et complète.